Le Yiddish, aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern. Bonjour Astrid.
Bonjour Annette. À nouveau réunis.
À nouveau réunis, voilà. Et on va continuer avec Shalom Aleichem. Donc la semaine dernière, nous avons présenté un jeune héros, hein, Motel, fils du chantre, que nous a lu notre collaboratrice Yaël, notre jeune collaboratrice. Et cette fois-ci, c'est un roman qui parle de jeunes adultes, on peut dire. Ça s'appelle « Étoile vagabonde ». En yiddish, Blonde Sterne, ce qu'on pourrait aussi traduire par étoile errante, qui est un roman qui parle du théâtre. Shalom Aleichem commence à être pas mal traduit en français, vous avez quand même accès à beaucoup de ces textes, de plus en plus, malgré les énormes difficultés de traduction que pose cet auteur. Alors j'en parle parce que là nous sommes effectivement un peu dans une série Shalom Aleichem, mais aussi parce que je voulais évoquer la mémoire du traducteur, qui s'appelle Jean Spector, que j'ai bien connu puisqu'il fréquentait la Maison de la Culture Yiddish à Paris, qu'il était un ami de Yitzhok Niborskit, qui d'ailleurs a bien sûr contrôlé cette traduction et même a fait une préface, ce qu'il ne fait pas toujours. Jean était quelqu'un qui connaissait aussi très bien la Bible Tanakh, quand il y avait des citations en hébreu de la Bible, c'est lui qui les connaissait. Il s'est attelé à la traduction de ce grand roman, de ce long roman qui fait plus de 600 pages, dans la traduction. Et je me rappelle qu'il m'en avait parlé, puisqu'on parlait justement des difficultés d'éditer des traductions du yiddish, sujet que je connais bien. Et comme il a vu que nous avions édité des traductions de Shalom Aleichem, d'ailleurs, aux éditions Hermann, il m'a demandé s'il pouvait s'adresser à eux. J'ai dit oui, bien sûr. Et finalement, c'est une traduction qui est parue aux éditions du Tripode. C'est un joli livre, un peu encombrant, mais très bien édité, bien imprimé, très facile à lire. Jean Spector est né en 1937 au sein d'une famille juive venant de Pologne. Et il a, pour ainsi dire, dit le quatrième de couverture, tété le yiddish. Il a suivi des études d'anglais, puis a occupé divers emplois dans le commerce. Et pendant 15 ans, il a tenu à Paris un club de jazz, ce que je ne savais pas du tout. Et il retrouve l'amour de sa langue maternelle. Et il a traduit ce grand roman et il a eu quand même le plaisir de le voir édité en 2020. Et il est décédé récemment, pendant cet été 2022. Yitzhok Niborski a écrit une préface sur Shalom Aleichem, en général, et aussi sur ce livre, en disant que Shalom Aleichem, contrairement à ce qu'on dit, il n'a pas décrit le monde yiddish, le monde juif, le monde juif d'Europe de l'Est, ancien, le shtetl, mais il décrit au contraire les modifications de ce monde. Et c'est vrai qu'on a un petit peu tendance à le renvoyer, si on peut dire, à la nostalgie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été beaucoup monté en Union soviétique, parce qu'on leur faisait le représentant du monde ancien. et avec l'idée que maintenant, donc en Union soviétique, il y avait un monde nouveau où tout avait changé. Et donc, c'est vraiment trahir un peu Sholem Alekhem qui, justement, était très attentif au changement du monde juif qu'il vivait vraiment en plein, hein, puisque lui, il écrit dans les années 1880. Donc, c'est vraiment l'année où il y a les années où il y a, bon, il y a des événements tragiques, il y a les pogroms, il y a aussi la misère et une grande émigration vers l'Amérique. Hein. Donc, c'est vraiment des années de grands changements. Également, les gens quittent le shtetl, vont dans les grandes villes. Et il a donc voulu aussi créer des héros juifs, dont pas des chevaliers, pas des j'allais dire pas des cow-boys, mais des héros juifs. Et il s'est beaucoup intéressé à tout ce qui est art. Hein. Donc, il y en a un qui est un chanteur, c'est Yossel Soloveil, Joseph le Rossignol. Il y a aussi un qui est un voleur. Bon, ça, c'est moins, c'est moins noble. Il y a aussi Stempenew qui est un joueur klezmer.
Oui, hein. Qu'a monté Raphaël.
Voilà, ouais. Que Raphaël Goldwasser a monté récemment à la choucrouterie. Il y a aussi notre petit Motte, le fils du chantre, là, dont nous avons parlé la semaine dernière, qui est qui dessine, qui va devenir peut-être peintre. Et là, nous avons donc le théâtre yiddish qui est montré. Donc, alors, c'est d'ailleurs son dernier roman. Enfin, ce n'est pas le dernier, puisqu'en fait, Motte, le fils du chantre, est postérieur, puisque la dernière partie a paru après son décès. Alors, il faut savoir aussi que tous ces romans paraissent en feuilleton, donc c'est pas toujours facile de rassembler les différents épisodes. En tout cas, là, il choisit, comme dit Yitzhak dans son introduction, il choisit pour héros les gens du théâtre yiddish. Ce théâtre surgit presque du néant dans les années 1870, bien sûr, en Roumanie, et qui allait essaimer dans le monde entier à peine en quelques décennies. Il s'agit encore de figures admirées situées à la marge de la société juive respectable, mais cette fois-ci, ce sont aussi des figures qui nous montrent la dissociation totale de cette société. Donc, les héros d'étoiles vagabondes sont des acteurs itinérants qui parcourent des communautés prises elles-mêmes dans le tourbillon migratoire. Donc, Nibansky dit que l'auteur a réussi à réunir dans cette œuvre tardive tous les éléments de son art, la matrice du shtetl où tout prend racine, les séances vertigineuses de son éclatement dans la modernité, les personnages hauts en couleur avec leur langage foisonnant d'inventions et leurs tirades truculentes. Sholem Alekhem nous montre ici avec maestria la gloire et la misère d'une forme d'art et d'un milieu artistique qui sont l'une des facettes les plus attirantes de la civilisation yiddish. Alors évidemment, ces mots nous vont droit au cœur, puisque je crois qu'on est aussi les continuateurs de ce théâtre yiddish, en particulier évidemment Raphaël Goldwasser, mais enfin on continue sur cet élan de faire vivre,
aussi,
voilà, de faire vivre le théâtre et la chanson yiddish.
C'est
voilà.
Vrai que les personnages sont souvent critiques à l'égard du judaïsme traditionnel. Même s'ils sont peut-être encore pris dedans, mais ils sont critiques. On voit que l'opinion de Sholem Alekhem est critique par rapport aux superstitions, aux trucs anciens.
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, et aussi, en particulier, à la place de la femme, c'est-à-dire que Sholem Alekhem était de ce côté-là très moderne, et donc il joue avec ça, il joue dans une de ses meilleures nouvelles qui est... mon roman d'amour, oui, non, je confonds avec deux, enfin bon, un roman d'amour qui est, que j'aimerais bien, je crois que je l'ai déjà présenté, mais je vais le représenter parce que c'est une nouvelle que j'adore. Mais dans tous ces textes, il s'interroge sur la place de la femme. D'ailleurs, je vais lire des extraits qui montrent ça. Et voilà, donc en particulier. Et aussi, par exemple, il est absolument contre les mariages arrangés, dont il se moque. Et c'est pour ça que dans les aventures de Menachem Mendel, qui devient Chatron, il finit par marier deux filles. Voilà. Donc, alors, on peut voir ça déjà pour, comment dire, une avancée genrée. Enfin, si je puis dire, dégenrée.
Que ce soit ça.
Mais moi, je pense qu'il y a chez Sholem Alekhem des jeux avec ça, absolument.
Et puis aussi la place de l'enfant. oui. puisque nous avons traduit au fil des fêtes où c'est souvent un enfant qui parle, on voit aussi comment le mauvais traitement, entre guillemets, n'exagérons rien, c'est pas vraiment volontaire, mais comme on ne considère pas l'enfant comme un être à part entière à qui on doit respect et considération.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, Sholom Aleichem lui donne la parole, hein, en particulier dans Motel Fils du Chantre, où c'est un enfant qui parle,
raconte tout.
Qui raconte tout. Voilà. Donc, oui, tout à fait. La place de la femme, la place de l'enfant, et les mariages arrangés, enfin, tous ces côtés de la vie traditionnelle. Oui, ouais, envers lesquels il est extrêmement critique. Voilà, on va peut-être déjà écouter une musique, puisque j'ai parlé assez longtemps.
Chanson sur un texte de Sholom Aleichem, parce que je crois qu'il y en a deux. Il y a l'autre qui s'appelle « Chvil nicht gehen in Cheder », voilà, « Je veux pas aller au Cheder », sur un texte de Sholom Aleichem, mais c'est pas celle-là que j'ai choisie. Donc il y en a deux, en fait, en tout et pour tout, dans tous les textes. C'est vrai qu'il n'écrivait pas beaucoup de poèmes, donc il faut pour qu'il y ait chanson, il faut qu'il y ait poème. Donc l'autre, c'est la fameuse berceuse de Sholom Aleichem, qui est très belle aussi. Ça parle justement de l'émigration. C'est la femme qui est restée au vieux pays avec l'enfant, et le père est parti, son mari est parti, et elle attend qu'il lui envoie l'argent pour faire la traversée. Et en attendant, elle berce son enfant en lui disant, en lui racontant combien ce sera bien quand ils seront tous installés en Amérique. Alors, Schlof, Mein Kind de Sholom Aleichem. Et là, j'ai trouvé l'interprétation de Irma Barmash.
Schlaf, mein Kind, mein Prest, mein Schöne, schlaf, Schöne, schlaf, mein Leben, mein Kadi, Schöne, schlaf, Schöne, bei dein Winkel sitzt dein Mama, singt ein Lied und weint. Wirst amol verstehen, ist Dame, was sie hat gemeint. Wirst amol verstehen, ist Dame, was sie hat gemeint. In Amerika ist der Tate, schlaf, schesune, schlafsche Eilu. Das Amerika ist bei jedem, sagt man Goragrik. Und bei jedem Nagenheden schläft es an Antik. Und bei jedem Schlaf, Lulu.
belle interprétation, n'est-ce pas,
hein? Oui,
je ne connaissais pas du tout cette chanteuse.
Très jolie, très doux, ouais. Et c'est vraiment les problématiques de l'époque, de partir en Amérique. D'ailleurs, Sholem Aleichem lui-même est parti en Amérique. Et ces héros-là, dans Blondstern, partent aussi en Amérique. Et ça, c'est aussi le théâtre yiddish qui est parti en Amérique et qui s'est énormément développé en Amérique. Voilà, alors je vais vous lire quelques extraits. C'est difficile, évidemment, de résumer cet énorme livre qui commence d'ailleurs très, très, très vite. Enfin, c'est un vrai roman avec des personnages, avec des péripéties. Voilà, donc... Je vais vous lire deux passages concernant des femmes. Voilà. Alors là, nous sommes chez le chantre, justement, encore un chantre, qui n'a pas beaucoup d'argent. Et voilà sa femme qui va faire des courses. Donc, elle fait le marché. En arrivant au marché, la femme du chantre, se sentait comme un poisson dans l'eau. Et le marché qui s'installait à Holenechti, je ne sais pas d'où il a sorti ce nom,
Holenechti. C'est souvent des noms inventés.
Non, hein. C'est inventé, oui. Je ne sais pas ce que ça veut dire, si c'est un mot, si c'est un sens en yiddish. Je ne vous dis que ça. Les femmes moldaves y apportaient en masse les laitages de leur bergerie, les fruits, les légumes de leur jardin, du maïs et des cornichons. Parmi toute cette variété, Leïe, la femme du chant, acheta un peu de tout, si bien que son cabas fut bientôt plein. C'est alors qu'elle tomba sur le poisson, une véritable affaire, un don de Dieu. Enfin, du poisson, c'est vite dit. Imaginez de la petite friture, des goujons, des ablettes minuscules, rien que la peau sur les arêtes, on mâche et on crache. Mais tellement bon marché qu'elle ne pourrait le raconter à personne, on ne la croirait même pas. Oui, Leïe, la femme du chantre, avait eu de la chance pour son marché. Sur l'unique petit roupe qu'elle avait apporté, il lui restait encore plein de monnaie. Dans ces conditions, je vais faire au chantre un cadeau, une dizaine de frais. Ça lui plaira bien, Yisroeli. Il aura de quoi faire 10 laits de poule pour soigner sa gorge avant les jours redoutables qui approchent, non mais des fois. Et puis, il faut rapporter des bonbons pour ma fille. Elle aime les douceurs, les sucreries, les friandises. Et quelle enfant délicieuse! Je voudrais bien pouvoir lui acheter des chaussures neuves, les vieilles sont déchirées. Voilà, donc cette Leïe rentre à la maison où elle entend son mari qui s'exerce pour justement les jours redoutables. Hein, vous savez, c'est Rosh Hashanah, Yom Kippour, où il y a des airs très particuliers. Mais la petite fille n'est pas levée et donc elle se demande ce qui se passe. Et soudain, coup de théâtre, Raizel a disparu. À sa suite, court, alors elle se précipite dans la ville, enfin dans le village, elle court partout. À sa suite, courent des hommes et des femmes qui l'aident à chercher. On est même allé fouiller jusqu'au bout du monde, au-delà du pont, au cimetière, dans tous les jardins. Elle n'y est pas. C'est à demi-morte qu'on a ramené Leïe chez elle en la soutenant. La maison était pleine de monde. Certains remontaient le rideau, regardaient le lit et la fenêtre ouverte et demandaient, comme se parlant à soi-même, « Alors, c'est par là que l'oiseau s'est envolé ?» À Olenechti, le malheur des uns n'empêche pas les autres d'en tirer un bon mot. Voilà, donc cette raise a disparu. Et puis là, nous passons dans une autre famille, donc une famille de riches, donc une bourgade juive, si pauvre qu'elle soit, se doit d'avoir son Rothschild. Voilà, Rothschild est vraiment célèbre dans le monde entier, dans le monde juif entier, bien sûr. Voilà, donc ce Rothschild de Holenechti, c'est Benny Rafalovitch. Donc ce Benny Rafalovitch est un patriarche qui a toujours une vingtaine de personnes à sa table. Qui a aussi un caissier. Alors, ce garçon s'appelle Simche, mais tout le monde l'appelle Joie et Jubilation. Alors, voilà, ici, on se heurte aux difficultés de traduction du yiddish, c'est-à-dire Simche, c'est un nom effectivement tout à fait courant qui veut dire joie. Et donc, pour s'amuser, on appelle ce jeune homme Simche Vesosen, c'est-à-dire... C'est une expression qu'on emploie toujours, quoi. Simchos Sosson, c'est aussi une chose que ce qu'on chante quand on a un mariage. Et donc, mais en français, effectivement, appeler quelqu'un joie et jubilation est un peu bizarre, voilà. Mais c'est intraduisible, c'est tout ce qu'on peut dire, voilà. Alors, pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que justement, il est triste, quoi. Hein, voilà, il y a quelque chose de... voilà, c'est l'humour juif, si je puis dire. C'est un noirot à la peau grasse, aux yeux globuleux, au nez constamment bouché, ce qui lui donne, rend difficile la prononciation des M et des N. Voilà. Donc, après, il y a d'autres membres de la famille. C'est toujours, on a vraiment envie de lire Shalom Aleichem ligne par ligne parce que c'est très, très savoureux, quoi. À la place d'honneur, au haut bout de la table, trône le chef de famille à l'image d'un roi. C'est un juif bessarabien typique, rien de moins que ventripotent, doté d'une barbe qui s'est développée en largeur. Béni quand il mange pour de bon. Faire deux choses à la fois, il déteste ça et ne veut rien savoir d'autre que ceux qui l'occupent. Il parle peu, mais n'est pas dérangé quand les autres parlent. Quelquefois, mais c'est rare, quand le vacarme se fait trop violent, il tense la compagnie. Silence, bande de bâtards. Regardez plutôt vos livres de prières pour savoir de quoi vous parlez. Alors, là aussi, problème de traduction, bande de bâtards sonne vraiment très violent en français, alors que c'est certainement le mot mamzerim, hein, mamzerim qui veut dire effectivement bâtard, mais qui s'emploie de manière tout à fait courante en yiddish. Alors, ici, Shalom Aleichem fait une petite une description du langage de ce béni. Alors, quand il dit « Regardez plutôt vos livres de prière », ça veut dire qu'il faut regarder son assiette pour savoir ce qu'on mange. C'est en effet une habitude chez lui de parler en code, de manière travestie. Par exemple, un cheval s'appelle pour lui un garçon. Les sous, ce sont des tessons. Une épouse, c'est une calamité, un fils, un kaddish. Alors ça, c'est courant, hein. On appelle souvent son fils aîné, un kaddish, c'est-à-dire c'est celui qui va dire le kaddish après la mort du père. Une fille, un napsé, le pain, c'est du fil, une maison, un galta, une alcôve, un trou, et ainsi de suite. La langue utilisée par Béni Rafalovitch mériterait tout un dictionnaire. C'est assez étrange, hein. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose de courant ou c'est quelque chose que Shalom Aleichem a inventé là, mais c'est vrai que ces mots sont assez bizarres. La dernière place à table est occupée par la femme de Béni, Belke. C'est une petite bonne femme malingre, silencieuse, on ne l'entend pas, on ne la voit pas. Elle a considéré la première question qui se pose, c'est « Est-ce bien celle-là qui a mis au monde toute cette équipe ?» Pourtant, qu'on ne se tracasse pas, c'est ce petit bout de femme qui porte sur les épaules tous les soucis de la maison. Elle en est remplie et c'est elle qui souffre à la place des autres. Elle n'a besoin de rien pour elle-même. Sa vie, ce sont ses enfants. Elle a cédé la place qui lui revenait, la place d'honneur à table, à sa vieille mère qui branle du chef et semble dire non, non. Cette vieille femme semble avoir été créée dans le seul but de rappeler aux gens que l'homme a une faim. Elle a perdu l'usage de presque tous ses sens, mais il n'en reste qu'un, une vue perçante. Elle voit avant tout le monde, personne avant elle ne s'est aperçu de l'absence du plus jeune des garçons, Leibel. C'est elle, la vieille, qui la première l'a remarqué. « Mais où est passé Leibel ?» Tous s'aperçurent alors que Leibel banquait à l'appel et on se mit à le chercher dans tous les coins. Si grande et indisciplinée que fût la maisonnée de Béni, ne s'était encore jamais trouvé qu'un enfant soit absent au repas. Le père se fâcha et émit un ordre qu'on aille me chercher le môme dans son troupeau, c'est-à-dire qu'on aille chercher le benjamin au Heider. Et donc, on envoya une estafette au Heider avec pour mission de ramener Leibel pour déjeuner. Mais Leibel a aussi disparu. Oui. Voilà, donc
ils
en
font
fait,
du théâtre, c'est
oui,
ça.
Oui, c'est ça. Voilà,
mais
ils
c'est
sont
comme
partis
dans l'histoire de Pourim, les Pourim Spieler avec le gosse qui part avec eux.
Voilà, exactement. Ouais. Donc, en fait, les deux jeunes sont partis, tous les deux. Et donc, on appelle la police. Et finalement, la police fait un procès verbal. Le fils de Béni Rafalovitch, Leibel, 14 ans, et la fille du chandre, Reisel Spiva, 15 ans, ont, dans la nuit de samedi à dimanche, pris la fuite avec une troupe de comédiens du théâtre yiddish en direction de la frontière roumaine. Le sudit fils de Béni Rafalovitch, Leibel, avait soustrait de la caisse du sudit Béni Rafalovitch la somme de temps et temps. Oui, parce que Leibel a compris qu'il fallait quelque chose pour vivre. Et donc, il est parti avec la caisse. Voilà, c'est le début de ce roman qui va nous emmener dans différents endroits.
Et ils vont faire du théâtre yiddish.
Voilà, ils font du théâtre yiddish en Roumanie, ensuite en Galicie. Après, ils partent en Amérique. Et nous les suivons dans toutes ces péripéties, toujours décrites avec beaucoup de verve, beaucoup d'empathie de la part de Sholom Aleichem.
Lisez. Ça fait que 600 pages, voilà. Et on s'ennuie
mais
pas.
Mais ça se lit vraiment facilement. Hein. Donc, Étoile vagabonde de Sholom Aleichem, traduit par Jean Spector aux éditions Le Tripode. Et on vous dit Shalom Aleichem.
Shalom Aleichem. Et merci Fabien, à la semaine prochaine.
Le Yiddish, aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern.